Pendant le confinement, France Culture vous propose de réentendre un certain nombre de bonnes choses. L'émission qui va suivre a été diffusée initialement le 30 décembre 2018. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission en partenariat cette semaine avec le magazine Version Fémina que dirige Catherine Roig. Bonjour Catherine.
Bonjour Caroline.
C'est vous qui nous proposez la cerise sur le gâteau aujourd'hui dans le thème de notre plat du jour puisqu'il va s'agir d'une couleur.
Absolument, puisque je vais vous parler d'un restaurant qui s'appelle Ultraviolet.
À tout à l'heure, aux alentours de 12h25. Bonjour à vous Natacha Trioux.
Bonjour Caroline.
La Madeleine 2, c'est ce que vous nous proposez aux alentours de 12h15, le souvenir gustatif d'une personnalité, laquelle aujourd'hui ?
La romancière Yannick Lins.
À tout à l'heure vers 12h15. Et pour notre plat du jour, les bonnes choses prennent des couleurs. Blanc, neige, cordon bleu, boudin noir, crevette grise. La cuisine est d'abord un plaisir des yeux avant d'être celui des papilles. Imaginez un camaïeu de carottes pourpres, choux rouges, navets mauves, basilic violet, petits pois verts, poivre noir, le tout arrosé de citron jaune. Que nous disent les couleurs dans nos assiettes? Y a-t-il un lien entre couleurs et saveurs? Notre perception du goût est-elle influencée par les couleurs? Faut-il manger coloré pour rester en bonne santé? Autant de questions que nous allons poser à nos deux invités. Raphaël Aumont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physico-chimiste, maître de conférence à l'Université Paris-Saclay, Paris-Sud, fondateur avec le chef Thierry Marx du Centre français d'innovation culinaire. Mais c'est pas pour le Centre français d'innovation culinaire que vous êtes là, c'est parce que vous venez de publier un livre, après un livre sur les textures, un livre sur les parfums, les saveurs, un livre sur les couleurs de la cuisine, un livre paru aux éditions Duno. Et à vos côtés se trouve William Ledeuil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cuisinier d'abord, chef ensuite cuisinier et chef du restaurant The Kitchen Gallery, c'est à Paris. Une étoile Michelin, sacré meilleur cuisinier de l'année en 2010 par le Goemio. Un vrai chef, quoi. Est-ce que vous diriez l'un et l'autre que la cuisine se mange d'abord avec les yeux ? Raphaël Aumont.
Oui, complètement. Enfin, moi, en simple consommateur, quand je vais justement dans des restaurants, c'est d'abord une assiette qui arrive, colorée, mais pas seulement colorée, on sent déjà avec la couleur qu'il y a des textures derrière. C'est-à-dire que vous voyez ce caramel ou cette réduction de sauce un peu brillante, on se dit, tiens, ça va me coller un petit peu au palais, ça va être rond en bouche, il va y avoir de la rondeur, ça va être de la persistance. Ce millefeuille qui va être un peu sec sur le côté, on se dit, tiens, il va être bien croustillant. Donc, on s'apprête avec les yeux déjà à des sensations organoleptiques et donc à de l'émotion.
William Ledeuil.
On cuisine avec les yeux, on mange avec les yeux, on choisit avec les yeux. C'est le premier sens qui est en éveil quand on va sur le marché. Qu'est-ce qui va avoir de l'influence? Effectivement, c'est les belles couleurs de tous ces produits, de tous ces légumes, de tous ces fruits, ces herbes. Et c'est tout de suite, c'est ce qui va donner tout de suite l'influence, l'envie de cuisiner. Et après, en cuisine, c'est pareil. Je veux dire, c'est vraiment le sens qui est en premier. C'est-à-dire, c'est un sens un petit peu architectural, mais c'est un peu l'architecture des couleurs. C'est le jeu des couleurs avant le jeu des saveurs. Et je dirais le premier sens également avec les clients, qui va être c'est l'assiette, c'est la mise en scène, c'est la mise en scène de tous ces produits, c'est ce qui donne tout de suite l'envie.
Il y a nécessairement, je suppose, quand on est cuisinier comme vous l'êtes, William Ledeuil, une harmonie aussi des couleurs, un jeu de la composition des couleurs. Votre restaurant, je le disais, s'appelle The Kitchen Gallery. Vous jouez bien sûr sur le The Kitchen Gallery. Le gallery, c'est pas seulement parce qu'il y a des tableaux au mur, il y en a hein, dans votre restaurant parisien, mais c'est pas seulement l'amour de l'art, c'est aussi que la cuisine est comme un tableau finalement.
La cuisine, c'est un tableau, d'ailleurs c'est un balai, la cuisine est ouverte, c'est-à-dire que de la salle on voit, non seulement on voit les tableaux effectivement, on voit les cuisiniers travailler comme un balai, et c'est aussi la galerie de cuisine, c'est la galerie des produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une telle diversité sur le végétal, une telle diversité de couleurs, qu'il faut absolument les mettre en scène. Je veux dire, la nature, on a la chance que la nature nous donne des choses magnifiques, belles, bonnes, avec des gens, je dirais, qui les cultivent, qui les produisent. Nous, notre métier, c'est effectivement, c'est de les choisir, c'est de les mettre en scène, de les mettre en forme, c'est de les marier harmonieusement. Et puis quelque part, c'est un petit peu un métier un peu égoïste, c'est-à-dire que on fait d'abord ce que l'on aime et ensuite après on le partage.
Est-ce que, Raphaël Aumont, il y a des couleurs qui se marient mieux les unes avec les autres que d'autres ?
Non, après, c'est très subjectif. C'est vraiment une notion qui est culturelle aussi. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique derrière les couleurs. Quand vous regardez une voiture, c'est des tests qui ont été prouvés, une voiture rouge roule plus vite dans votre inconscient qu'une voiture bleue ou grise. Et c'est pareil, il y a des aliments. Par exemple, si vous regardez l'orange, dans l'inconscient des gens, un plat orange ou le jus d'orange le matin, ça va me donner de l'énergie. Alors que c'est faux.
C'est pas faux. Il y a de la vitamine C dedans.
Il y a de la vitamine C. Il y en a très, très peu par rapport à, par exemple, à du persil. Il y en a 4 fois
moins. Ou du kiwi.
Et pourtant, on se dit, oui, mais cette boule orange qui arrive, c'est comme le soleil. Le soleil, c'est l'énergie sur Terre. Donc, on mange des symboles avant de manger des nutriments. Et les cuisiniers l'ont bien compris, ça. Et donc, c'est vraiment cette approche globale, symbolique, nutritionnelle. C'est tout ça qui rentre dans le... Et évidemment, de créativité, parce que le chef, il va ajouter des pigments. Il va jouer sur les couleurs, comme un peintre. Il va aussi jouer sur des saveurs, comme un musicien, aux notes à notes. Et donc, c'est tout ça qui va être mis en scène. Mais après, on peut aimer une multiplicité de couleurs, comme on peut aimer des monochromes. Et là, on va s'intéresser à la texture. Et là, c'est aussi merveilleux de voyager dans une texture.
Est-ce que vous nous feriez un petit précis chromatique des couleurs en cuisine et des perceptions qu'on en a? Dans votre livre, Les couleurs de la cuisine, vous l'avez construit d'ailleurs par couleur. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on associe comme perception en général dans nos cultures?
Le vert est très symbolique de la nature. Donc, ça va être tout ce qui va être feuilles, etc. Donc, tout ce qui est chlorophylle,
fibre. Pas pour rien que le bio est vert, en général.
Et c'est pas pour rien que le bio est vert, la pharmacie aussi. Le violet, c'est l'aubergine. Dans le marketing, c'est tout ce qui est symbole à l'exotisme. Si vous regardez le riz basmati, si vous regardez des produits comme ça exotiques, c'est souvent violet. C'est aussi l'âge, la notion de les personnes âgées, le violet des cheveux. Donc dans l'inconscient, c'est aussi une culture des personnes âgées, la sagesse est violette. Vous voyez, une métonymie comme ça des couleurs qui est assez rigolote.
Donc la vitelotte, par exemple, cette pomme de terre violette, elle est plutôt associée à la vieillesse.
Alors je ne sais pas si elle est plus sage qu'une autre par rapport à une jaune qui va être plus dynamique, mais on mange tout ça inconsciemment. Le bleu, par exemple, est quelque chose qui est assez rejeté.
Oui, c'est pas très apprécié en cuisine.
C'est pas apprécié parce que c'est des choses qui sont souvent moisies. Par exemple, la moisissure est bleue. Alors elle peut être noble dans un roquefort, etc. Mais souvent le bleu est assez délicat et le vert aussi est assez ambivalent en chimie. C'est comme le bleu d'ailleurs, c'est un pigment qui est très dur à stabiliser. Les myrtilles. C'est très dur de garder ce bleu joli d'une myrtille. Le muffin va très vite délaver vers le violacé et très vite c'est plus du tout appétissant. Donc c'est pour ça aussi je pense qu'en cuisine le bleu est un peu déprécié.
Vous l'appréciez, vous, le bleu en cuisine, William Ledeuil?
Je l'apprécie. On a peu d'éléments, en fait. Après, effectivement, on va pouvoir avoir des notes bleues. On parle de la myrtille. Il va y avoir des réactions avec un acide. Mais je crois que c'est en même temps, on peut s'en servir en le composant. Parce que le jeu, c'est aussi ça, la cuisine. C'est-à-dire, c'est un véritable jeu. Un jeu de combinaison des couleurs, les formes. Prenez une carotte pourpre. Si vous la coupez en deux, vous avez toutes ces différences, ces nuances avec le cœur de la carotte, avec des traits légèrement orangés. Et ça donne une autre dimension. Donc c'est aussi ça le métier du cuisinier, c'est de savoir vraiment mettre en scène et faire ressortir ses couleurs.
Raphaël Aumont.
Et faire varier des couleurs aussi, c'est-à-dire que justement ces myrtilles, ce qui est rigolo, c'est vous écrasez 2-3 myrtilles, on l'explique dans le livre, vous mettez juste un peu de bicarbonate ou un peu de levure en fait, et elles vont virer au bleu. Et après, donc vous avez un espèce de coulis très sombre, un peu noir, par exemple autour d'un petit gâteau au chocolat. Bon, vous dites, bon, c'est quoi ça? Vous versez un petit jus de citron. Le bicarbonate avec le jus de citron, ça fait une mousse. Et les pigments de la myrtille deviennent rouges en milieu acide. Donc vous pouvez faire ce petit gâteau au chocolat qui est entouré d'un coulis noir, devient un petit gâteau toujours noir, mais entouré d'une mousse rouge. Vous faites une forêt noire, forêt rouge en effervescence.
Ah, parce qu'il y a vraiment une science des couleurs. D'ailleurs, c'est aussi une science que vous montrez très bien dans les couleurs de la cuisine, Raphaël Aumont. C'est pourquoi un homard bleu, par exemple, devient rouge quand il cuit.
Il y a des magies qui sont merveilleuses. Eh ben exactement.
Pourquoi le sucre blanc devient-il caramel?
Mais oui, c'est fascinant. Le métier de cuisinier, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est des artistes qui doivent maîtriser aussi toutes ces réactions. Vous snackez une viande, elle colore rien qu'à la couleur. On a déjà une idée des goûts qui se développent parce que les pigments sont liés aux saveurs qui se dégagent.
Alors on va demander comment il réagit à cette science chimique des couleurs, le cuisinier William Ledeuil. Mais juste un mot d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous répondre pourquoi le homard bleu devient rouge quand il cuit?
Alors très facilement d'ailleurs, il y a une molécule qui s'appelle l'astaxanthine. C'est un petit pigment qui est plutôt orange-rose. Vous allez le retrouver naturellement dans la chair du saumon. Il va être libre et donc il va réagir avec la lumière et puis il devient, la perception dans l'œil, c'est donc du coup ce orange-rouge. Dans le homard ou dans les carapaces de certaines crevettes, il est aussi stocké par l'aliment qui mange parce que ça vient de microplancton, mais il va être encapsulé, entre guillemets, enrobé par une grosse protéine. Et donc, il va être caché, comme dans une cage. Et donc, la lumière va pas pouvoir réagir et il apparaît bleuté. Sauf que quand vous le plongez dans l'eau bouillante, là, la protéine casse, c'est la coagulation en gros, elle casse et elle libère le pigment. Et d'un coup, bah le pigment peut réagir avec la lumière et ça devient rouge. Donc c'est assez rigolo de voir que c'est des histoires très très complexes d'ailleurs, de complexation, ça s'appelle en chimie.
Et chimie ou magie, le sucre qui devient caramel ?
Bah, pour moi, ça reste de la magie. Moi, je reste émerveillé toujours. Et c'est pour ça qu'on est passionné de cuisine, de chimie, tout ça. Pour moi, c'est un peu pareil. Parce que ce caramel, regardez comme c'est merveilleux. C'est une molécule, hein, le saccharose. Et vous arrivez simplement le chauffant à transformer cette molécule unique en plus de 150 molécules. Il y a encore des thèses là-dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça se rassemble, ça recasse, ça se rassemble, ça recasse. Et ça devient des molécules qui sont des fois jusqu'à 60 fois la longueur initiale. Ça se réarrange, ça se recasse et ça forme des pigments. Les mélatonines notamment, qui sont des pigments noirs, et puis aussi des nouvelles saveurs. Et donc vous avez une palette aromatique, vous voyez on parle de palette, c'est rigolo, qui sont à la fois sur les couleurs et sur les saveurs, à partir d'une seule molécule. Alors vous imaginez, dans une fraise, il y en a 300, dans du café, il y en a 350, dans une vanille, il y a 400 molécules. C'est une science qui est merveilleuse, qui est infinie.
Alors, est-ce que l'artiste peintre que nous avons avec nous, William Ledeuil, est-ce que ça vous arrive d'être surpris par cette science des couleurs et de découvrir que ce qui était vert au départ devient orange? Est-ce que vous devez connaître cette science aussi pour cuisiner?
Je dois la connaître, mais par contre, j'aime pas toujours d'explication. Ce qui est bien avec Raphaël, c'est que forcément, il y a une explication.
Tout à fait.
Et ça, ce qui est
très
intéressant.
Mais vous pouvez jouer avec si vous la connaissez.
Et on peut jouer avec.
C'est la magie de la rencontre entre scientifique et cuisinier, justement.
Absolument. Mm.
Donc après, effectivement, avec l'expérience, le métier, il y a des choses, il y a des réactions que l'on connaît. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien savoir à chaque réaction pourquoi. Vous parliez du homard, vous parliez des belles crevettes.
Oui, ouais. Sans forcément faire de la science très compliquée ou des équations. Mais par exemple, vous regardez le brunissement. C'est pareil, vous coupez une pomme, elle noircit très vite. Les champignons, c'est pareil. Alors,
faut apprendre à éviter qu'elle noircisse, parce que c'est moins beau
du sens de mettre par exemple du jus de citron. Sauf que vous dites, ouais, mais d'accord, mais moi je voulais pas mettre de jus de citron parce qu'il y a un goût de jus de citron. Alors comment je fais? Et donc c'est ce qu'on se dit, mais c'est pas l'acidité du jus de citron qui empêche de noircir, c'est la vitamine C qui est dans le jus de citron. Parce que la vitamine C, c'est un antioxydant.
Et il y a une petite astuce, c'est de couper la pomme au moment où vous allez la servir.
Et voilà, c'est pour ça que quand on parlait en introduction de la belle couleur dans l'assiette, c'est-à-dire que si vous avez une pomme qui est bien brillante et qui n'a pas de goût de citron, je me dis, le chef qui est derrière, il vient de la couper pour moi, et c'est une cuisine qui est précise. Couleur juste, cuisine juste.
Il faut savoir vraiment le doser. Hein.
Exactement.
Je pense à des ingrédients comme les endives, comme les artichauts. Ouais. Évidemment, ça peut être très joli, très blanc, mais si on a un excès
que ce soit bon avant tout.
Exactement. Et donc, moi, je suis pas partisan, par exemple, d'avoir une endive complètement blanche. Et en même temps, ça a vraiment une super incidence. Je prends toujours l'exemple, on fait un bouillon thaï au restaurant, un bouillon à base de lait de coco. Et si jamais j'ai une légère teinte, même légèrement beige, j'ai besoin que ce bouillon soit blanc. Parce que sinon, j'ai déjà la perception du goût qui est modifiée dès qu'il est légèrement teinté.
Oui, mais d'ailleurs, William Ledeuil, vous aimez particulièrement les bouillons, vous venez d'en citer un. Vous aimez particulièrement faire les bouillons et vous avez consacré un livre aux pâtes. Alors, on a quand même des pâtes aux légumes et des pâtes colorées, mais tout ça, c'est pas très coloré quand même.
C'est une fausse idée, parce que les pâtes et les bouillons sont des magnifiques supports. C'est-à-dire, prenez un bouillon, le même, vous le variez avec les différentes saisons, avec tout ce que la nature vous apporte, les herbes. Et en même temps, ça, ce que j'appelle, moi, ça fait partie de la notion de la cuisine bien-être. C'est-à-dire les couleurs, déjà, c'est déjà une notion de bien-être. C'est-à-dire que ces couleurs-là apportent de la satiété, on a envie de manger différemment. Et puis le bouillon, vous allez en Asie, c'est quand même un pays où il y a le moins d'obésité. Et dans tous les feux vietnamiens, on utilise beaucoup d'herbes, beaucoup d'agrumes. Les légumes sont coupés très fins, ils sont juste cuits, on a gardé toutes les qualités nutritionnelles.
Oui, ben justement, la couleur bien-être, on va en parler juste après avoir écouté la Madeleine. Vous écoutez Les Bonnes Choses sur France Culture, c'est l'heure de la Madeleine 2. Je laisse les choses en suspens, Natacha.
C'est la Madeleine de la romancière Yannick Lins. Alors c'est une grande figure de la littérature haïtienne. Prix Femina 2014 pour son roman Bain de Lune aux éditions Sabine Vespizer. Dans ses livres, elle raconte son île, les rues de Port-au-Prince et ses épices. Pour sa Madeleine, Yannick Lins nous parle d'une cuisine de fête haute en couleur.
Moi ce sera le canard au mangue. Parce que ma mère était un vrai cordon bleu et elle a passé toutes les années de sa vie à essayer de donner cette lettre de noblesse à la cuisine haïtienne. Nous, à la maison, autour de la table, c'était la fête, toujours. Quel que soit le plat que ma mère préparait, elle en faisait quelque chose de beau. Alors un jour, elle préparait d'habitude un canard avec des pêches, des choses comme ça. Elle me dit, mais pourquoi pas, est-ce que je n'essaierais pas un canard au mangue. Mais des mangues très particulières qui s'appellent les mangues Francis, qui sont vraiment très caractéristiques d'Haïti. Elle est plutôt, pas très dodue, mais enfin, il y a une chair très agréable, très parfumée surtout. C'est le parfum de cette mangue qui est extraordinaire, extraordinaire. Et j'arrivais à la maison, et dès que j'avais ouvert la barrière, le parfum de ce canard au mangue, ça je ne l'oublierai jamais, parce que c'était déjà là, c'était une manière de nous mettre en appétit, moi de me mettre en appétit, et mon imagination a commencé à travailler à partir de cette odeur du mélange canard et mangue Francis. Mango, 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 mango. Donc on commence par un petit pour assaisonner son canard de manière très traditionnelle, comme on veut. Mais nous, en Haïti, on met quand même un petit peu d'épices, du piment, même si on ne laisse pas le piment éclater dans le plat pour que ça ne soit pas trop relevé. Et au moment de la préparation, on prend la pulpe et on laisse mijoter avec la pulpe. On accompagne ça jusqu'à présent à la maison avec du riz, avec ce qu'on appelle le... Je connais pas l'équivalent en France, mais aux États-Unis, ça s'appelle le lima beans. On appelle ça en Haïti des pois de souche. Le riz au jonjon, c'est quand même assez fort, donc les deux parfums peuvent quand même se heurter. Donc là, avec ce riz au pois de souche, c'est juste une merveille. Et puis, ma mère, ce qu'elle faisait, et que je refais moi aussi, c'est qu'après, je passe le canard au four et je prends quelques morceaux de mangue que je mets au-dessus du canard. Donc c'est très coloré, ça devient très orange, et avec le canard grillé, c'est juste extraordinaire. Et puis il y a l'arôme, le parfum de ce plat qui est vraiment magique.
Et qui va très bien avec les couleurs dont nous parlons, du marron ou du doré, du canard, de l'orange ou du jaune de la mangue. Et cordon bleu, elle disait au début à Yannick Lins que sa grand-mère était un cordon bleu. Ça vient d'où ça, ce cordon bleu, Raphaël Aumont?
Alors cordon bleu, dans l'histoire qu'on a pu retrouver justement de ce plat, c'était l'histoire d'une escalope de veau qui est farcie de viande et de fromage, qui est pliée en deux. Et avant d'être panée, bah, il faut accrocher, il faut que ça tienne. Et donc on tenait ça avec une petite ficelle bleue. Un petit cordon bleu.
Et il se trouve qu'elle était par hasard bleue.
Voilà, il se trouve qu'elle était par hasard bleue.
Et on a gardé le mot cordon bleu.
Le mot cordon bleu. Voilà.
Alors venons-en à cette cuisine colorée du bien-être dont vous nous parliez, William Ledeuil, juste avant cette madeleine. Est-ce qu'effectivement, manger coloré, c'est bon pour la santé? William Ledeuil.
Je trouve que les couleurs, elles amènent une sensation de bien-être. Après, chacun son feeling. La cuisine, c'est une affaire d'humeur. C'est-à-dire qu'on cuisine en fonction de ses humeurs, donc chacun a des goûts sur différentes couleurs. Mais c'est vrai qu'on déjà quand on va créer quelques plats ou interpréter quelques plats, on va pas forcément réagir à un produit particulier. Moi, je sais quand arrive le printemps, le vert me donne envie de réfléchir. Et derrière ce vert, effectivement, j'ai cette notion de c'est l'éveil de la nature, donc c'est la sensation de bien-être.
Oui, c'est plutôt le bien-être pour vous que la santé, ça va avec, hein, parfois, mais c'est plutôt.
Bah, je préfère parce que santé, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose d'un peu.
C'est moins rigolo.
D'un côté un peu médical.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors qu'aujourd'hui,
c'est moins
bien-être,
plaisir.
C'est autre chose.
Raphaël Aumont.
Alors, c'est pas incompatible, peut-être, plaisir, bien-être et santé. C'est-à-dire que, justement, quand vous diversifiez votre assiette avec plein de légumes différents, de différentes couleurs, vous mangez des pigments. Et les pigments, c'est quoi? Souvent, c'est des antioxydants. Et donc, c'est très intéressant d'aller manger différents polyphénols, c'est-à-dire des antioxydants, parce qu'il y a de la vitamine A, il y a de la vitamine D, il y a de la vitamine C. Et tout ça, c'est bon pour votre organisme. Donc, c'est bien de manger diversifié et changer les couleurs.
Mais est-ce que la couleur nous renseigne sur la qualité d'une matière première?
Alors,
prenons un haricot vert.
Alors, s'il est bien vert, c'est ce qu'on dit, c'est bien respecter le produit. Justement, il va être encore bien vert, mais cuit. Et donc, ça veut dire que le chef derrière a juste cuit correctement le légume.
On et donc, toujours on va encore... à la cuisine juste.
Eh ben oui, parce qu'on va ingérer correctement ces vitamines encore présentes, ces nutriments qui n'ont pas été dégradés par la chaleur ou par l'oxydation. Et ça, c'est intéressant.
Donc, c'est important de garder la couleur d'un aliment.
De préserver
tel qu'il
la
est,
couleur. Oui. Alors, c'est intéressant. C'est, je le cite dans l'introduction du livre, c'est cette approche de la cuisine chinoise d'il y a entre 3 et 5 siècles avant Jésus-Christ. Hein, donc, on n'est pas du tout dans des concepts actuels de nutrition. Mais ils séparaient les aliments en 5 grandes familles. Il y avait la famille des verts, la famille des jaunes, des rouges, des
blanc
noirs.
Blanc et noir.
Blanc et noir, exactement. Et finalement, il se disait, Eh bien, les verts, c'est le monde végétal, donc c'est des fibres. Effectivement, ce printemps, c'est le renouveau, c'est la sève, etc. Tout ce qui est jaune, c'est des sucres plutôt rapides. Alors aujourd'hui, je dis sucre rapide, hein, mais imaginez, il y a 5 siècles avant Jésus-Christ, donc c'est quand même merveilleux de se dire, c'est le maïs, c'est la carotte, et oui, ce sont des légumes qui sont riches en sucre. Donc ça va me donner une énergie rapidement. C'est pas faux. Et là, le jaune, c'est la couleur de la force en Chine. Le blanc, c'est aussi l'énergie, mais plus lente. C'est donc des sucres lents. C'est les pâtes, c'est le riz dont on a parlé tout à l'heure pour les pâtes. C'est des sucres lents. Et c'est vrai que ça vous donne une énergie à long terme. Le rouge, ça va être plutôt l'énergie, les protéines de la viande. C'est pas faux non plus. Et puis, vous avez les noirs. Alors, le noir, c'est quoi? C'est plutôt ce qu'étaient sels minéraux. C'est-à-dire que le noir, à l'époque, c'était la couleur de l'eau. Et sels minéraux, on en a besoin pour les équilibres des cellules. Donc, les Chinois, vraiment, et après toute l'Asie, bien avant notre ère, eh bien, avaient déjà classifié les aliments pour la santé. Et mangeaient un peu de tout, et suivant les couleurs, suivant les humeurs. Alors, on mettait le mot humeur avait pas le même sens à l'époque, mais c'est, moi, je trouve ça très intéressant.
Comment vous réagissez à tout ça, William Le Deuil?
Effectivement, la santé est tellement importante, mais ça démarre déjà par le sourcing. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qui sont très jolies, mais forcément, on n'a pas non plus quand même l'origine. Et l'origine est quand même très importante. Donc nous, c'est quand même une partie, je vais dire, un petit peu invisible du métier de cuisinier, mais qui est sans doute la plus longue à mettre en œuvre. C'est-à-dire aller chercher la personne, le maraîcher. Donc ça part forcément du bio 100%. Parce que sur le bio 100%, on va pouvoir se permettre... Il y a des légumes, on les épluche même plus. Vous allez prendre un simple navet, un Tokyo Cross par exemple, on le consomme complètement, on va consommer les fans, on va consommer les peaux, on va consommer la chair. Et en plus, si vous le prenez, la peau va avoir un goût, la fan va avoir un goût, la chair va avoir un autre goût. Donc c'est vraiment ça pour moi, c'est très très important cette notion de sourcing et d'aller chercher vraiment le produit.
Est-ce que c'est important aussi pour vous, William Le Deuil, de préserver la couleur originelle d'un produit?
C'est très important parce que déjà quelque part, si vous voulez, c'est que quand on préserve la couleur, la cuisson elle est réussie. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple effectivement du petit pois ou du haricot vert, s'il est trop cuit, il va perdre sa couleur. Donc il y a deux choses, c'est du jardin à l'assiette, le temps le plus court.
Ça s'appelle un circuit court.
Voilà. Oui, et après, ensuite, effectivement, c'est des cuissons justes, des cuissons courtes, suivant effectivement l'ingrédient. Une carotte va cuire peut-être un petit peu plus longtemps. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure d'une cuisson à l'anglaise à l'eau, on va tout perdre. Moi, ce que je préfère, c'est effectivement, c'est la cuisson des légumes à l'étuvée. Ils cuisent dans leur jus de végétation, à couvert. L'eau de végétation remonte sur le couvercle, elle retombe et le légume cuit dans son jus. Donc, on concentre tous les goûts, toutes les saveurs.
Raphaël Aumont, est-ce que vous nous donneriez une petite astuce pour fixer la couleur des légumes verts?
Alors, les astuces de chef, faut les demander au chef, mais souvent, il y a cette cuisson à l'anglaise dont parle William, justement. L'idée, c'est de prendre une grande quantité d'eau, une grosse poignée de sel, de mettre les légumes là-dedans. Bon, tous les goûts partent, les saveurs, ça sent très bon dans la cuisine. On se dit, mais qu'est-ce qui va rester dans ma casserole, d'ailleurs, et dans mon assiette, en tant que consommateur. Et après, il y a fixer la couleur, alors en plongeant les légumes dans les glaçons. Bon, c'est encore des choses qui sont enseignées dans les écoles hôtelières. On fixe rien du tout. On stoppe la cuisson avec les glaçons, ça c'est vrai. Mais,
le chef approuve, hein. Donc pour l'instant.
Ah bah oui, c'est tant mieux. Ouf. Mais l'idée pour conserver ce vert, parce qu'il faut quand même cuire le légume. C'est là toute la difficulté du cuisinier, c'est-à-dire que soit on décide de manger cru, soit on décide de le manger cuit, mais bien cuit. Et donc il va falloir quand même cuire. Alors en chimie, on apprend ça, c'est les celluloses, les pectines, etc. Bon bref, mais il faut cuire au moins à 80 degrés un légume, mais certainement pas à 100 degrés. 100 degrés c'est trop. L'eau part avec les arômes et vous commencez à déliter le produit, il s'oxyde et il change de couleur. Donc 80, 85 degrés, ça suffit largement. Donc il faut aussi travailler sur la casserole de demain, c'est ça qu'on fait aussi au labo à Orsay, qui garde l'eau qui retombe dans le plat et surtout arrêter de faire bouillir, donc avoir des vrais thermomètres, mais au degré près, et ça peut être très intéressant.
Et on met un petit peu de bicarbonate
dessous. Alors voilà, l'astuce après au quotidien, c'est donc dès que ça boue, c'est presque trop tard, on met un petit peu d'eau, et la bonne astuce, c'est une astuce de grand-mère d'ailleurs, c'est de mettre un peu de bicarbonate, parce que vous allez attendrir la cellulose, et en plus, vous allez garder ce vert très très fluorescent presque du légume.
Et le chef a approuvé. Une dernière question pour vous, William Le Deuil. Quelle serait la couleur de ce dimanche, pour vous?
Moi, je prendrais le blanc. Alors qui n'est pas la couleur la plus éclatante, mais qui est aussi un magnifique support. C'est un petit peu comme la page blanche. L'assaisonnement va se faire avec des touches de couleur. Et là, effectivement, le blanc, c'est quelque peu d'apaisant, et en même temps, ça va se réveiller. Je pensais par exemple à une Saint-Jacques marinée, donc un carpaccio de Saint-Jacques blanche translucide. Et là, on va pouvoir jouer avec les assaisonnements. On est en pleine saison des agrumes, quelques écorces de yuzu, un tout petit peu de citron caviar. On avait les endives de pleine terre, un cresson à l'énois, par exemple. Voyez, on donne déjà des tonalités. La page blanche se remplit. Et puis, on aurait pu imaginer, par exemple, un blanc de bar qui est cuit en papillote avec de la citronnelle, avec un blanc de poireau cuit en papillote également, avec un jus de coquillage.
Et on cuisinera avec un livre dont les pages blanches sont effectivement remplies également de couleurs, qui est le livre de Raphaël Aumont, Les couleurs de la cuisine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission aujourd'hui. Puis bon dimanche. Et c'est l'heure de vous retrouver, Catherine Roig, pour la cerise sur le gâteau. Une cerise qui n'est pas rouge aujourd'hui, mais qui est colorée quand même.
Elle est ultraviolette, car voilà, je dois vous dire, Caroline, que dans une vie de journaliste gastronomique, certaines expériences vous en font voir de toutes les couleurs. Il y en a des fabuleuses, un peu jaunes, comme cette salade de citron juste cueillie sur un arbre à Ischia dans le golfe de Naples. D'autres, plus rouges, plus extrêmes, comme cet émincé de cœur de renne crue au Danemark. Toutes ces expériences sont passionnantes, mais pour moi, aucune n'égale le dîner multisensoriel que j'ai dégusté chez Ultraviolet, dans un mystérieux quartier de Shanghai. Et ce, grâce à un chef perpignanais. Il s'appelle Paul Perret, il vit en Chine depuis 13 ans et il a accompli son rêve le plus fou. Faire vivre à 10 personnes chaque soir un repas où tous les sens sont convoqués. Le goût bien sûr, mais aussi la vue, l'odorat, l'ouïe et même le toucher. Mais pour comprendre ce voyage culinaire unique au monde, il faut que je vous le raconte depuis le début.
Avec plaisir.
D'abord, rendez-vous sur le Bund, la mythique avenue de Shanghai face au tour futuriste de Pudong. Là, on vous remet un menu inscrit en transparence sur un papier gracieusement plié. Puis on vous embarque dans un minibus muni de rideaux. Et c'est parti pour un long trajet dans cette ville tentaculaire. Comme l'adresse est tenue secrète, l'idée c'est de vous faire perdre tout repère, et c'est réussi. En descendant du véhicule, on a l'impression d'arriver dans un parking souterrain. Ça fait partie de l'expérience, mais sur le moment on ne le sait pas et c'est carrément effrayant. Ça l'est encore plus quand une porte s'ouvre dans cet espace sombre, dévoilant la silhouette d'un hôte portant une casquette maoïste. À l'intérieur, on découvre une ambiance avant-gardiste, et l'apéritif se prend autour d'une œuvre d'art en forme d'immense arbre couché. Vient enfin le moment de pénétrer le Saint des Saints, la salle à manger. Enfin, la salle à manger, sauf qu'à première vue, elle ressemble à un bloc opératoire. Entièrement blanche, du sol au plafond, avec une table immaculée où se découpe le nom des convives en lumière ultraviolette. Ce qui commence alors relève en effet autant du happening artistique que du repas gastronomique. À la cuisine extraordinaire de Paul Perret, répond une mise en scène totale. Les murs, le sol, le plafond s'habillent d'images et de films vidéo en harmonie avec le plat que vous mangez. À chaque bouchée correspond une musique et même une odeur.
Alors ça a l'air dingue, mais concrètement on voit pas bien ce que ça veut dire encore.
Eh bien, je vais vous expliquer plus en détail. Lorsque les serveurs vous apportent un plat à base d'huîtres, par exemple, les murs se font liquides. Des vaguelettes se forment autour de vous. Vous êtes dans un parc à huîtres, comme vous le confirme le parfum délicatement iodé qui se diffuse et la bande-son qui rappelle les clapotis de la mer. Pour le foie gras au cacao, par exemple, la table blanche se mue en une immense tablette de chocolat plus vraie que nature que vous vous surprenez à caresser pour en avoir le cœur net. Et quand arrive la guimauve de sèche, enroulée en spirale dans votre assiette, elle-même en forme de spirale, la même spirale se dessine à l'infini sur les parois et on devient fou. Chaque nouvelle assiette est de plus en plus bluffante. Le clou, c'est peut-être la bouchée d'agneau truffé. Une odeur d'humus se répand et imperceptiblement, vous vous enfoncez dans la terre d'une forêt.
Je crois que je préfère pas vous demander quel prix ça coûte. Hein.
Effectivement, si c'est très cher, il faut quand même savoir que le chef Paul Perret a mûri ce projet pendant 16 ans avant de le voir aboutir, que 25 personnes sont chaque soir en cuisine et au service de 10 clients, que chaque dîner comporte au minimum 20 plats, et que la cuisine délirante de Paul Perret est l'une des meilleures du monde. Il a d'ailleurs reçu 3 étoiles Michelin récemment. Bref, personnellement, je casserais volontiers une fois de plus mon PEL pour reprendre au moins une fois dans ma vie le Shanghai Express.
Merci Catherine Roig pour cette cerise sur le gâteau. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aigoui Chichkoyan, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Anthony Thomasson, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal.